Si vous souhaitez tout savoir sur votre année de naissance, retrouvez-nous pour quelques émissions sur les années anniversaires commentées par Jean Saraméa, historien géographe retraité. Joyeux anniversaire à tous ceux qui ont 20, 30, 40, 50, 60 ans et plus en cette année 2023.
Bonjour, nous avons le plaisir de recevoir Jean Saraméa, qui va nous parler des années anniversaires.
Bonjour à toutes et à tous, et très heureux de retrouver les auditrices et les auditeurs de Fréquence Mistral à partir de Briançon. Alors, comme les années précédentes, on va faire quelques sauts dans le passé pour caractériser des années anniversaires. Et on va commencer très logiquement par souhaiter un bon anniversaire à toutes les personnes qui viennent d'avoir ou vont avoir en 2023 100 ans. Donc, que s'est-il passé d'important? Qu'est-ce que la sédimentation historique a laissé dans les mémoires pour l'année 1923? Alors, en Europe, ce sont les traités qui mettent fin au conflit dans la partie extrême orientale, hein, c'est-à-dire l'ancien empire ottoman. Les frontières de la Turquie vont être définies, elles n'ont pas varié depuis. Et il va y avoir de terribles échanges de populations qui fuient de la Grèce vers la Turquie, de la Turquie vers la Grèce, et ça reste très sensible dans les mémoires. Autrement, un drame. Je me souviens, mon père avait 13 ans, il m'en a parlé plusieurs fois, et il suivait sur les journaux, évidemment, cette information. C'est le terrible tremblement de terre de Tokyo. Le 1er septembre 23, plus de 200 000 morts, plus de 200 000 morts, parce que, bien sûr, la ville n'était pas construite en technique antisismique, mais surtout, c'est l'incendie. Les canalisations de gaz, les fils électriques ont été évidemment rompus, et l'incendie a quasiment rasé toute la capitale de Tokyo, ce 1er septembre 1923. Pour la France et pour l'Europe de l'Ouest, bien, c'est une décision importante prise par le, on disait pas premier ministre à l'époque, on disait président du conseil, Raymond Poincaré, en France, qui décide avec l'armée belge d'occuper le bassin charbonnier de la Ruhr en Allemagne. Alors pour quelle raison? C'était pour imposer de nouvelles négociations. L'Allemagne, d'une part, ne livrant pas les quantités de charbon prévues par le traité de Versailles, et d'autre part, l'Allemagne ne payait pas, ou avec extrêmement peu de bonne volonté, les sommes qu'elle devait au pays qu'elle avait martyrisé, entre autres la Belgique et tout le nord et le reste de la France. Donc cette occupation de la Ruhr va être très problématique, elle va durer toute l'année. L'armée française et l'armée belge sont très mal accueillies, il y a des grèves, il y a des manifestations, il y a de véritables soulèvements, avec chaque fois pas mal de morts à la clé. Le but de Poincaré est d'obliger les Anglais, et à la rigueur les Américains, à faire de nouvelles négociations pour obliger l'Allemagne à payer ce qu'on appelle les réparations de guerre. Ça va être un relatif succès diplomatique pour la France. Alors pourquoi l'Allemagne a-t-elle cédé? Pour une raison très simple, c'est que Poincaré avait menacé de créer un État rhénan lié à la France, y compris par la monnaie, et indépendant de l'Allemagne, c'est-à-dire de morceler en définitive l'Allemagne. Et les autorités de Berlin, surtout Stresemann, ont bien compris la menace. Ils n'ont pas senti que la France n'avait absolument pas les moyens financiers de mener à bien ce projet. Mais l'Allemagne est revenue, disons, à la table des négociations et à partir de 24, s'est mise à peu près à payer. Autre chose, c'est l'effondrement du marque. L'effondrement de la monnaie qui est volontaire de la part de l'Allemagne, c'est une façon d'apurer toutes les dettes intérieures. Toutes les familles aisées et toutes les entreprises allemandes qui s'étaient endettées ne doivent plus rien quand la monnaie ne vaut plus rien. Et surtout, c'est une façon de dire au reste du monde, ben voyez, on ne peut pas payer puisque notre monnaie ne vaut plus rien. Alors il y a un chiffre qui est resté dans les mémoires et dans les manuels scolaires, c'est qu'au mois de novembre 23, pour acheter un dollar, il faut 4200 milliards de marques. À partir de là, la monnaie ne vaut plus rien, donc on converti l'ancienne monnaie dans une nouvelle monnaie, le Rentenmark, un nouveau mark vaut 1000 milliards d'anciens marks. Ce qui veut dire que les gens qui avaient des revenus monétaires plongent dans la misère. Leur retraite ou leur revenu, ça ne vaut absolument plus rien. Ne sauvent leur épingle du jeu que ceux qui avaient des biens, c'est-à-dire des terres, des entreprises, de l'or, des bijoux, etc. Ça crée une fracture dans la société allemande, évidemment, et ça reste dans les mémoires. C'est resté dans les mémoires de l'Allemagne, et jusqu'à présent, l'Allemagne est prête à faire beaucoup d'efforts, sinon de sacrifices, pour avoir une monnaie qui vaille quelque chose. Nous n'avons pas la même tradition monétaire. Bon, le franc a perdu petit à petit sa valeur, mais il ne s'est jamais effondré pour disparaître. Or, quand même, en 30 ans, ça s'est produit deux fois en Allemagne, avec toutes les conséquences sociales qu'on peut imaginer sur la société. Autrement, il y a des aspects très positifs un siècle après. Des laboratoires à faire des vaccins contre la maladie du sommeil en zone tropicale, contre la diphtérie, contre le tétanos, et toujours en 1923 va être mis au point le BCG, c'est-à-dire la première façon de s'immuniser ou de lutter contre la tuberculose. Ce sont d'énormes espoirs, même si ce n'est pas généralisé très vite. Autrement, c'est le premier ancêtre de l'hélicoptère, c'est un ingénieur espagnol, Juan de la Cierva, qui fait décoller l'autogire, et puis aux États-Unis, c'est le premier rasoir électrique. Bon, ça ne viendra en Europe que plus tard. Autrement, en sport, eh bien, c'est la première fois que sont disputées les 24 heures du Mans. Le Tour de France est gagné par Henri Pélissier, et le deuxième s'appelle Bottecchia. C'est un brillant cycliste italien qui va gagner deux fois le Tour de France les années qui suivent, notamment en gagnant l'étape mythique de l'époque, qui était l'étape Nice-Briançon. Et celui qui gagnait l'étape Nice-Briançon avec l'Isoard, etc., était quasiment assuré par l'avance qu'il prenait de remporter le Tour de France. Voilà. Autrement, la France prépare activement les premiers Jeux Olympiques d'hiver, qui auront lieu début 24 à Chamonix. Sur le plan culturel, c'est la première de Knock, célèbre pièce de Jules Romain avec Louis Jouvet. Colette fait paraître un roman quelque peu sulfureux, Le blé en herbe. Le compositeur suisse Arthur Honegger compose Pacifique de 131. C'est une pièce de musique pas très longue, mais qui décrit de façon fantastique, de façon audio évidemment, le démarrage d'une locomotive à vapeur. Je me souviens avoir écouté ça quand j'étais au lycée et avoir été bluffé. Autrement, Picasso commémore la disparition cette année, peint La femme en blanc, qui est un de ses tableaux emblématiques. Quelles sont les naissances qui vont, personnes, hommes et femmes, qui vont faire parler d'elles et d'eux par la suite? Bien, le mime Marceau, Jacqueline Maillan, Claude Pieplu, le cinéaste anglais Attenborough, autrement Marcello Mastroianni, Charlton Heston, dans la littérature Bernard Clavel, Robert Sabatier, dans l'opéra c'est Maria Callas, dans les dessinateurs c'est Piem et Maurice, qui créera Lucky Luke, autrement c'est le futur prince de Monaco, Régnier III, dans le domaine politique Charles Hernu, Henry Kissinger. Ce sont de toute façon des choix personnels en fonction de noms de personnes dont on a pas mal entendu parler par la suite, mais ce n'est pas exhaustif, évidemment. Disparition, la romancière néo-zélandaise Catherine Mansfield, Sarah Bernhardt, la grande qui a créé des pièces de théâtre emblématiques. C'est le prix Nobel de physique Röntgen, qui est le père, entre guillemets, des rayons X. C'est le littérateur français Pierre Loti, mais aussi Raymond Radiguet, qui, après un roman très sulfureux, mourra à l'âge de 20 ans. En France, c'est le président Alexandre Millerand, et le Premier ministre Poincaré. Cette année-là, il y a 9% d'inflation. Il faut bien comprendre qu'on est toujours dans les conséquences mal maîtrisées de la Première Guerre mondiale, que les budgets, l'endettement permettent pas de réaliser beaucoup d'investissements ou de grands chantiers. Alors, y a-t-il des chansons emblématiques à cette époque? J'en choisis une qui est chantée par Fréhel. Ça s'appelle « Du gris ». Alors attention, ce n'est pas du tout l'apologie du tabac. C'est tout simplement une chanson sociale, le gris étant ce qui permet aux personnes pauvres, voire très pauvres, d'avoir un petit moment de plaisir dans la journée, parce que c'est le tabac de très mauvaise qualité, le tabac très bon marché. Et si je choisis du gris, encore une fois, il n'y a rien de polémique, mais c'est parce que c'est une chanson emblématique de 1923. Il y a la radio Tour Eiffel, c'est 1920-21. Bien sûr, on n'a pas un poste de radio qui se branche sur cette heure à l'époque, mais c'est pour bien faire passer le message que méfions-nous des formules qui caractérisent une période. On dit, bon, 1921, 22, 23, 24, c'est les années folles. Eh ben non. Non. D'une part parce que le terme d'année folle n'a été donné que longtemps après, pendant la crise économique des années 30. On se dit, ben dans le passé, c'était pas plus mal. Et surtout, ça ne correspond qu'à moins de 1% de la population dans les grandes villes, à Paris, avec ceux qui vont dans les cafés-concerts, les cabarets, etc., pour, disons, dépenser un argent qui a été peut-être assez facilement gagné pendant la Première Guerre mondiale. Mais pour l'essentiel de la population, dans les villes comme dans les campagnes, ce sont des années très tristes, très tristes. Il faut penser à tous les blessés, tous les amputés, toutes les veuves, tous les orphelins. On est 5 ans après 1918, et ce ne sont pas des années folles. D'où cette chanson. Voilà, eh bien, à bientôt pour un saut de 10 années.
Oui, merci à vous.
Une cibiche, ça n'engage à rien. Si je te plais, on fera la causette. T'es gentil, t'as l'air d'un bon chien. Tu serais moche, ça serait la même chose. Je te dirais quand même que t'es beau. Pour avoir, t'en devine bien la cause. Ce que je te demande, une pipe, un mégot. Non, pas d'anglaise, ni de goutte dorée. C'est tabac-là, c'est du chiquet. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule. C'est fort, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche de sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Monsieur le docteur, c'est grave ma blessure. Oui, je comprends, il n'y a plus d'espoir. Le coupable, j'en sais rien, je vous le jure. C'est le métier, la rue, le trottoir. Le coupable, ah, je peux bien vous le dire. C'est les hommes avec leur amour. C'est le cœur qui se laisse séduire, la misère qui dure nuit et jour. Et puis je m'en fous, tenez, donnez-moi, avant de mourir, une dernière fois. Du gris que dans mes pauvres doigts, je le roule. C'est bon, c'est fort, ça monte en moi. Ça me saoule. Je sens que mon âme s'en ira moins farouche dans la fumée qui sortira.